semble que tu as un air haïssable ce soir. Ray Lalonde qui fait son arrivée en studio. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Mario.
Remet la casquette. Comment vas-tu, mon cher?
Ça va très bien, toi?
Ben oui, ça va bien. Alors, c'est pas parce que les finales de LNH et de la NBA sont terminées qu'il n'y a plus d'actualité concernant ces deux ligues. Commençons par la nouvelle qui est tombée, même, je te dirais, de façon un peu surprenante, qu'il y a des rumeurs qui ont commencé à couler dans les 48 dernières heures, confirmées aujourd'hui. Montréal accueillera le repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2020. Est-ce que c'est parce que les autres villes n'en veulent pas? Comment tu l'expliques? Parce que c'est venu en 2009 et la déduction, c'est que donc clairement, il y a des villes qui ne l'ont pas eu, qui ne l'ont jamais eu et Montréal a son tour à nouveau.
Bien, on avait bidé, on avait posé notre candidature, Mario, en 2004, dans le cadre de tout ce que le centenaire devait accueillir. On voulait le match des étoiles, le repêchage, on voulait un match extérieur. On voulait tout avoir de la Ligue nationale. Et on a eu tout sauf le match extérieur. On avait pas les conditions, puis les Canadiens les ont toujours pas là, pour accueillir un match comme ça. Alors, 2009, ça fait pas si longtemps que ça, là, ça fait 10 ans. Et ça va faire 11 ans en 2020 lorsque les Canadiens vont l'accueillir de nouveau. Il y a deux côtés de la médaille, Mario. Est-ce que c'est bénéfique pour une ville d'accueillir un événement de la Ligue nationale d'importance ou de tout autre sport? La réponse rapide, c'est oui. On veut des occasions pour célébrer, engager nos partisans, créer une certaine forme de valeur pour les gens qui suivent notre équipe. Alors, c'est important à ce niveau-là. Est-ce que c'est payant? Pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup d'argent à faire. C'est pas comme si on vendait des billets. C'est pas comme si les gens se tirait partout pour obtenir des produits dérivés aux couleurs du repêchage.
C'est bon pour la ville, les hôteliers, les restaurateurs, j'imagine, pour trois, ben, deux,
comme
trois jours.
Comme tu as vu, là, par exemple, le repêchage de la NFL au printemps dernier, là, il y a quelques mois, à Nashville, c'est un truc qui avait duré deux, trois jours. ESPN était là. Il y a beaucoup de couverture média. La NFL crée un événement qui attire 300-400 000 personnes en dehors de l'aréna, Mario. Mais c'est pas tout à fait comme ça au hockey ou dans les autres sports, le basketball non plus. C'est un grand moment pour les jeunes, mais c'est beaucoup d'efforts logistiques et de planification et des dépenses pour l'équipe qui l'accueille. Alors, c'est peut-être la réponse à la question pourquoi certaines villes ne semblent pas vouloir l'accueillir.
Ils n'ont pas le choix de faire une scène avec ça.
Oui, puis ça
va
demander...
En plus, la Ligue, tu rayonnes pas bien bien, comme Martin nous racontait comment... Ça n'avait pas été un gros exercice de relations publiques que de tenir le repêchage à Sunrise en Floride, par exemple.
Non. Et Ottawa l'a eu il y a quelques années. Nous, on l'a organisé en 2009 à Montréal.
Oui.
C'était correct. C'était bien. Puis on voulait avoir l'attention sur Montréal dans le cadre de la 100e saison des Canadiens. Et tu te rappelles, dans les années 60-70, le repêchage était toujours à Montréal.
Et là, toi et Pierre Boivin avaient obligé Trevor Timmins à repêcher Louis Leblanc.
Non, écoute... Non, je veux pas aller là, là. Tu vas me mettre dans un coin, mais il y a eu une certaine pression, puis il y a eu un repêchage, puis à la fin, tu sais, nous, on est dans la gestion de l'événement, puis les Canadiens ont obtenu, malheureusement, un choix qui n'a pas donné le dénouement qu'on voulait. Mais c'est pas plus la faute à Louis ou aux Canadiens, ça arrive, ça, dans
ouais.
le sport. Mais ce que je veux dire par là.
Des pressions, oui, oui, vraiment. C'est...
Non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sentait qu'il y avait une énergie pour avoir un joueur francophone le plus tôt possible. Et les gens de hockey, Trevor Timmins, Bob Guéné, tout ça, ont choisi Louis Leblanc. Alors, mais sur le côté affaires, Mario, ce que je veux dire...
Sans que vous les tassiez dans le coin, là.
Non, sans qu'on les tasse dans le coin.
Parce que lui, il s'en plaint encore. Hey, tu parles d'un gars courageux, se plaindre de ça publiquement.
Non, mais encore une fois, revenons à l'essence de ça. L'essence, c'est que tu voudrais avoir un joueur local sélectionné dans une ville par l'équipe, bien sûr.
Là, le monde va souhaiter que le Canadien ça, trouve un moyen de finir dernier.
Ben oui, je comprends ça, c'est normal aussi. Mais à la fin, c'est un moment important dans la vie d'un jeune. Mais pour une équipe, moi, j'ai encore la prétention de croire que ça vaut la peine de participer à de l'organisation de grands événements pour te donner une certaine forme de notoriété, de prestige dans l'industrie. Mais apparemment, certaines équipes y croient pas, fait qu'ils ne posent pas leur candidature.
Alors voilà pour le repêchage. On a hâte. Repêchage de la NBA. Ça, bon, vendredi, c'est à Vancouver. NBA, c'est demain hein? Exactement.
Ouais. Demain soir à Brooklyn, Mario. Et ça, ce repêchage-là, ben pourquoi il compte? Parce que le premier joueur, ça va être Zion Williamson. On le sait. On sait où il va. On sait qui va le repêcher, les Pelicans de Nouvelle-Orléans. Et on sait comment ça va changer l'environnement de la NBA. Pour deux, trois raisons, Mario.
Penses-tu qu'il est si bon que ça?
Williamson,
il n'a pas fait gagner son club universitaire.
C'est un joueur d'impact.
Ouais.
Dans la NBA, il va avoir un impact important. il n'a pas gagné, mais c'est un jeu d'équipe,
oh,
évidemment.
C'est un bon
mais
joueur.
C'est un excellent joueur, ouais. Hors du commun.
Il est grand.
Il est grand, il est fort, il est costaud. Et il a des habiletés athlétiques exceptionnelles pour un joueur de son gabarit à 280 livres. Alors, il faut quand même souligner là, que c'est tout un morceau.
De mémoire, tu as-tu quand même mesure?
Je pense que c'est 6 pieds, 6 pouces.
6 pouces, ouais, 280 livres.
Ouais. Ouais, ouais. C'est un grand garçon. Et surtout, il va avoir un impact pour vendre le produit. Alors, les Pelicans, qui ont gagné la loterie, vont se prévaloir d'un joueur unique qui pourrait avoir un impact et changer la franchise. Surtout qu'ils viennent de transiger avec les Lakers pour envoyer Anthony Davis avec LeBron James aux Lakers. Ce que je suis en train de dire, Mario, c'est qu'il va avoir un été de mouvements importants dans la NBA et ça a commencé avec la victoire des Raptors où deux des agents libres les plus courus, Kevin Durant et Klay Thompson, sont blessés. Durant va rater une saison complète. Il va devoir reprendre son option avec les Warriors au lieu d'être agent libre. Il va prendre l'argent puisqu'il ne jouera pas. Et Thompson, lui, sa saison est compromise. Peut-être une moitié de saison qui l'attend. Ça veut dire deux grands joueurs qui ne sont plus disponibles comme joueurs autonomes parmi seulement une poignée de grands joueurs.
Moins de solutions potentielles pour les équipes qui veulent prendre des raccourcis.
Exactement. Alors, c'est pour ça que les Lakers ont transigé rapidement. Ils ont donné la cuisine au complet pour obtenir Anthony Davis. Ils se sont vidés de leurs jeunes talents et mettent tout leur argent sur LeBron James et Anthony Davis pour l'an prochain parce qu'ils savent que l'ouverture dans l'Ouest est là puisque les Warriors ne seront plus aussi compétitifs. Mais là, ça laisse quoi? Ça laisse des joueurs comme Kawhi Leonard, justement. Ça laisse des joueurs comme Kyrie Irving disponibles. Et là, c'est là qu'il va avoir, encore une fois, une course folle. Aujourd'hui, là, t'as deux gars là, que je te nommerais, là, Al Horford. Est-ce que ça te dit quelque chose, Al Horford? Al Horford, là, il vient de dire non à son option pour renouveler l'an prochain à 31 millions. Mario, Al Horford, c'est un joueur qui marque une douzaine de points par match avec les Celtics qui n'a pas vraiment un si grand impact. Et il se permet de dire non à 30 millions de dollars.
Il se laisse désirer.
Non, mais écoute, Mario, c'est pourquoi? Parce que soudainement, il y a moins de joueurs disponibles. Et là, peut-être que l'enchère va monter vers des joueurs comme ça. Ça va changer l'environnement de compétition dès l'an prochain dans la NBA. C'est la beauté de la NBA, c'est qu'un ou deux joueurs peuvent changer une équipe immédiatement.
Et juste pour compléter, puisqu'on a bifurqué vers la NBA, est-ce que tu as envie de te prononcer sur où aboutira Kawhi Leonard? On parle des Clippers de Los Angeles ou des Raptors de Toronto. Penses-tu que ça peut être une autre destination ou c'est vraiment une de ces deux-là?
Non, non, c'est sûr que c'est une des deux. Il n'ira pas jouer avec LeBron James. C'est clair que c'est pas la personnalité.
New York non plus.
Non. Il n'y a personne qui est dans la course sauf les Clippers et les Raptors. À mon avis, là, j'ai pas plus de connaissances, des connaissances peut-être, mais pas plus de connexions possibles avec Leonard. Ce que je veux dire, c'est que il gagne à tous les points de vue de rester à Toronto. Mais je pense que ce qu'il va faire, à mon avis, là, c'est mon humble opinion, c'est qu'il va signer un contrat de 2 ans avec les Raptors. Il va faire une année plus une année d'option. Il est capable d'aller à 10 ans d'expérience dans la NBA en rajoutant 2 ans. Et à 10 ans, il est éligible au Supermax, c'est-à-dire le contrat où il se donnerait l'occasion d'avoir 35% du cap salarial de son équipe. Et ça, il n'a pas le droit à ça avant d'avoir 10 ans ou avant d'avoir été avec son équipe. Mais là, il a changé d'équipe, il n'a plus le droit à ça, mais dans 2 ans, il va avoir le droit encore une fois. 35% de ton cap salarial, quand ça va valoir autour de 120 millions de dollars, Mario, bien là, on est dans le 40-45 millions de dollars pour lui. Donc, il y a une excellente chance encore qu'il reste avec les Raptors. L'autre option, c'est les Clippers. Mais avec les Clippers, il va gagner moins rapidement.
On va peut-être revenir à la NBA tout à l'heure, mais là, je voulais parler de baseball avec toi. Ray, toi aussi, tu souhaitais m'en parler. Examen de la qualité du marché de Tampa Bay pour une équipe de baseball. On sait que malgré la qualité de leur équipe, les Rays de Tampa Bay continuent d'avoir beaucoup de mal à attirer des foules intéressantes. Et est-ce que selon toi, puis est-ce qu'il y a de plus en plus de données qui peuvent nous dire si c'est viable ou non le baseball là-bas?
Ben Mario, c'est intéressant parce que je lisais des commentaires de Bud Selig aujourd'hui, qui était le commissaire en titre au moment où il a accordé une franchise à Tampa Bay, les Rays, qui s'appelait les Devil Rays à l'époque.
Oui.
Et c'est lui qui est en relation les dernières années de son mandat pour tenter de trouver une solution de stade qui se poursuit encore aujourd'hui pour les Rays. Ils ont une excellente équipe. Ils sont à 3,5 matchs des Yankees aujourd'hui, malgré la masse salariale, une des masses les plus basses et aucune façon qu'ils peuvent compétitionner avec Giancarlo Stanton, Edwin Encarnacion, Gary Stevens. Ils n'ont pas du tout le talent proche des Yankees et pourtant, ils gagnent. Mais il y a 5-10 000 personnes dans les gradins, match après match. C-League prétendait aujourd'hui qu'il sent encore la responsabilité de cette équipe-là et d'une solution pas encore établie pour résoudre le problème des Rays. C'est pour te dire que depuis des années que je te parle que le but d'un commissaire, c'est de faire réussir les équipes dans leur marché. Et les choses que les commissaires ont peur, c'est de laisser un leg qui se traduit en échec. Ça, les commissaires ont une horreur de ça.
Mais quel rôle joue ces ligues maintenant qu'il n'est plus
commissaire?
Ils ne jouent
pas de rôle, mais ils l'analysent à distance en disant « J'aurais aimé régler cette solution-là pour les Rays, soit un nouveau stade, soit une nouvelle opportunité, ou au moins régler le problème, pourquoi ça ne fonctionne pas à Tampa Bay. » J'ai pas plus confiance que ça va aller mieux. Même avec un stade neuf, les Rays ont besoin d'exploser l'opération et de recommencer. Et peut-être que le recommencement n'aura pas lieu, puis ça serait une relocalisation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, je ne vois pas de solution parce que...
Mais lui, en voyant une ligue?
Non, lui regrette le fait qu'il n'a pas de solution et que lui n'a pas pu régler le problème lui-même pendant qu'il était commissaire. Donc, c'est pas très encourageant ce qu'il y a à dire aujourd'hui là-dessus.
En tout cas, il a prouvé dans le dossier de Montréal qu'il n'était pas trop bon pour régler un problème parce que, dans le fond, avoir su que les Expos resteraient ici bien plus longtemps qu'on l'a pensé, finalement, dans le temps, on aurait peut-être changé d'attitude envers l'équipe parce qu'on avait l'équipe qu'on savait qu'elle allait partir.
Exact.
Et jamais ils nous envoyaient un signal, hey, vous avez une chance de la garder. Jamais, jamais, jamais.
Absolument. On parlait de contraction à l'époque avec les Expos. Ça monte à longtemps, là. Les Padres de San Diego et les Rays, justement. C'est trois équipes qu'on flottait, qui disaient « Peut-être qu'on va réduire notre effectif d'équipe. » On parlait pas de relocalisation, Mario. On disait de fermer des équipes. Et Bud Selig était le commissaire à ce moment-là. Et on n'est pas arrivé à ça. Donc, ça rejoint ce que tu viens de dire. On a attendu longtemps. On les a pas perdus tout de suite, les Expos. Puis à la fin, on s'est retrouvés. Ils doivent partir et on se retrouve les mains vides. Mmh. Et là, 15 ans après, là, on veut une équipe.
Ouais.
Bon, et malheureusement, on
mais
va
ça a été mal géré de tout bord, de tout côté.
Absolument.
Pas juste la Ligue,
à l'interne,
ici aussi.
Exactement.
Là. Bon, Laurier Sansom, puis des actionnaires québécois dans le temps qui ont laissé ça aller.
Qui n'ont pas eu la vision à l'époque.
Qui n'ont pas coté cash cow de Laurier pour mettre le pied à terre. En fait, qui n'aurait jamais dû se tourner vers un actionnaire majoritaire qui venait de l'extérieur. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est tout du passé, tout ça, mais... Tu te rends compte, là, c'est sûr qu'il y a une grosse vague, une fièvre basketball, mais sur les médias sociaux, les gens aiment ça créer des, je dirais pas des polémiques, mais des débats, des discussions, et là, les gens se questionnent, coudon, est-ce qu'on voudrait plus une équipe de basket ou une équipe de baseball? On en a parlé ensemble, mais globalement, tu sens-tu que le baseball n'a plus le vent dans les voiles? Tu sens-tu que c'est une industrie qui va connaître des difficultés dans les 5, 10, 15 prochaines années, ou vraiment pas, parce que c'est trop solidement ancré en Amérique?
Mario, c'est une excellente question, mais je pense pas que c'est le baseball nécessairement, c'est l'industrie du sport en général qui va être mise à l'épreuve par rapport à la consommation, par rapport aux intérêts des gens de se déplacer, peu importe le sport, la NBA incluse.
Ben oui, c'est un défi.
Aller, c'est un défi d'attirer des gens pour aller 3 heures voir
Donne-moi
un événement.
Donne-moi envie de me déplacer.
Exact. Et voilà la question. Déplace. Parce que être partisan à distance, Mario, pas de problème.
C'est facile.
Suivre sur mon téléphone 5 sports en même temps, pas de problème.
Pas de trouble.
Mais là, tu me demandes de me déplacer, ça inclut de la logistique, du temps, de l'énergie, de l'organisation. Et là, soudainement, ça me tente moins. Surtout que la diffusion radio, télé et web est de haute qualité. Alors, c'est pas juste le baseball. Mais le baseball a d'autres défis. La durée d'un match, le nombre de matchs dans une saison, le temps que ça prend pour avoir un enjeu. Parce que tu sais, Mario, que quand t'es pas en septembre, ben là, il n'y a pas grand-chose qui vaut quelque chose au baseball. Et tu sais aussi qu'en juin, ben déjà, la moitié des clubs sont déjà éliminés, puis on est à la mi-juin. Fait que ça laisse pas beaucoup d'espoir pour le partisan de dire « Pourquoi je suivrais ça tout au long d'une saison?
Mm-hmm. »
Ça, c'est un avantage que la NBA a. Plus de drames à la fin, plus de courses aux séries, plus de possibilités d'espoir pour un partisan qui veut rester accroché à une équipe gagnante plus longtemps.
Comment ça va finir, Tampa Bay, juste pour clore la discussion là-dessus? Est-ce qu'il y a de nouvelles dates butoirs ou finalement...
Il n'y a pas de date butoir pour le moment. Ils cherchent encore une solution avec le stade. Tu sais, Sternberg, le propriétaire là-bas, est toujours en discussion localement. C'est loin d'être facile parce que les gens ont des opinions divergentes puis les politiciens ne veulent pas trop s'en mêler et surtout pas trop engager de fonds publics. Tandis que le propriétaire, lui, veut toujours de l'aide et toujours de l'aide. Moi, personnellement, si tu me demandes qu'est-ce qui va arriver avec ça, je pense qu'ils vont le résoudre, le problème. Je pense qu'un jour, il va y avoir un nouveau stade. Je pense que les Rays vont rester sur place. Et je ne pense pas nécessairement que ça soit ça la solution pour le retour des Expos. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas au retour des Expos, mais je pense que c'est la dernière solution, Mario, de déménager une équipe. Mais peut-être que je me trompe complètement, puis que les Rays sont à la veille de partir et de venir à Montréal. Qui sait? Seulement M. Manfred est au courant de cette information-là.
Un mot sur Titletown Tech. De quoi s'agit-il?
Oui, mais Mario, je veux te parler de ça parce que c'est une relation entre Microsoft et les Packers de Green Bay qui date du début d'année cette année où ensemble, ils investissent dans un fonds de capitalisation, un fonds d'investissement dans le Midwest américain. Pas sur la côte ouest à Silicon Valley, pas non plus sur la côte est à New York, mais au milieu des États-Unis, une équipe pro, les Packers, une grande entreprise gigantesque comme Microsoft, qui investissent jusqu'à 25 millions de dollars pour encourager le développement de solutions technologiques et de produits nouveaux dans l'industrie et qui vont être financés par des intérêts propriétaires de sport. Alors, on en voit de plus en plus. Il y en a déjà 25 relations comme ça qui existent aux États-Unis actuellement. Et les Packers et Microsoft sont les derniers à s'aventurer dans cette zone-là. C'est important parce que notre consommation de sport dans les années à venir va toujours passer par la technologie, nos appareils intelligents autour de nous. Et tout ce qui se passe dans les stades aujourd'hui pour augmenter, rehausser l'expérience passe par la technologie. Ça, c'est l'avenir du sport.
Ray, un gros merci. C'était notre dernière conversation de la saison, à moins qu'un événement nous amène
toi, tu t'en vas en vacances, mais moi, je m'en vais pas en vacances.
Juste vendredi, mais on va continuer de t'entendre aux amateurs de sport avec Jérémy Rainville pendant tout l'été, mais bien hâte de te reparler, puis on va se revoir d'ici là de toute façon. Un gros merci, Ray.
Merci, Mario.
Et on peut continuer de te suivre sur Twitter. Aide-moi ta chronique Focus sur SoundCloud, sur iTunes et... J'en oublie-tu un?
iTunes, SoundCloud, YouTube, ouais. Et puis Twitter régulièrement sur la business du sport et toutes sortes de sujets, marketing, technologie. Et
ça s'en vient trop gros, culture. Ray. C'est trop... C'est l'empire, Ray Lalonde. Merci beaucoup, Ray.
Salut, Mario.
Attention à toi. On revient avec Danny Dubé en direct de Vancouver.